Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
Vous le savez, ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Parlant d'être au rendez-vous, ben nous, on l'est à chaque semaine sur Instagram, Crime et Cocktail Podcast, Crime avec un S, Cocktail avec un S, T'es dans le milieu, Podcast à la fin, et Slide dans les DMs.
S'il vous plaît!
S'il vous plaît! Puis pendant que tu y es, écoute, une bonne petite note Apple, Spotify, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, un commentaire, nous envoyer à tes amis, parle de nous aux gens que tu aimes. C'est ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît!
Est-ce qu'on saute tout de suite au moment What the fuck la semaine, Jess?
Allons-y, allons-y!
Parfait, donc c'est moi qui commence aujourd'hui, parce que c'est Jess qui va dire la recette du drink tantôt. Non, fait que c'est le contraire. Mon Dieu, je suis... Ça fait un an et demi qu'on fait le podcast, puis encore à ce jour, je suis pas capable de savoir. Laissez faire. Jess, vas-y.
On t'aime de même, nous. C'est bien correct. Moi, mon moment what the fuck, Hey, j'y avais pas pensé, on dirait, cette semaine. Puis là, on en enregistre deux à la fois, puis j'avais juste préalablement pensé à un, j'avais oublié. Ouais.
Généralement, c'est moi, mon Dieu, qui a pas de moment what the fuck la semaine. Qu'est-ce qui se passe, Jess? Est-ce que ça va?
Ouais, c'est juste qu'on dirait que je sais pas, comme, j'ai eu beaucoup de moments what the fuck la semaine, mais comme, qu'est-ce que j'ai envie de partager dans le podcast? Je sais pas trop. Ouais, ben, cette semaine, il y avait une petit peu de poussière de neige, du mini, mini, mini poussière de neige, c'est comme la première neige qui reste, et... Valérie Plante a décidé de déneiger ma rue, puis genre, elle a remorqué plein de voitures sur ma rue. Mais pas elle personnellement, là, mais bref. La ville de Montréal a fait une opération déneigement dans ma rue quand il n'y avait pas de neige. Puis ils ont remorqué des chars quand il n'y avait pas de neige. Mais cet hiver, quand il y avait des tempêtes, les chars restaient pognés dans la cabane de prison d'Igloo pendant 8 jours ouvrables. Fait que cohérence quand tu nous tiens.
Mais c'est ça, vive à Montréal. Moi, mon moment what the fuck la semaine, cette semaine, c'est que quand l'épisode va sortir, qui est le 3 avril, ça va être le jour de ma graduation. J'ai fini l'école.
Yay! Yeah! Yay! Yeah! Tout le monde, prenez un instant pour aller applaudir, féliciter Noémie, dites-lui à quel point vous l'aimez. Ah, oui, allez toutes lui dire une chose que vous aimez sur Noémie dans les commentaires, dans les DMs. Je vous oblige, s'il vous plaît. Elle le mérite. Elle mérite une dose d'amour. Elle s'oublie tous les jours quand elle va travailler dans le domaine de la santé. Fait que vous lui devez bien ça. Puis elle s'oublie aussi quand elle vous fait des épisodes. Vous lui devez ça. Allez toutes vous dire, y dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez de ma chum Noémie. Merci!
Merci, Jess. Donc, dans 2 semaines, je m'attends une grosse dose d'amour parce que là, quand on enregistre, c'est dans 2 semaines, c'est ça? Ouais. Anyhow, je vais essayer de partager des petites photos de ma graduation quand que ça va être le temps.
S'il y a personne qui slide dans les DM, je vous jure, je vous boycotte. Je fais pas d'épisode pendant 1 mois.
Oh mon Dieu, OK, Jess, elle a sorti les grosses menaces, là, la gang. Je pense qu'elle est sérieuse, là. Bref, on va continuer tout de suite avec le drink la semaine. Jess, c'est quoi qu'on boit cette semaine?
On sait pas pour vous, mais ici au Québec, Dame Nature, elle aime ça jouer avec nous depuis les 2-3 dernières semaines. Un jour il fait 15, le lendemain il fait moins 15, il pleut, il neige. On a juste hâte à la saison des terrasses parce qu'à Montréal, quoi de mieux que de prendre un cocktail ou deux à côté de 120 millions de cônes oranges et de devoir hurler pour que la personne assise juste en face de toi t'entende par-dessus tout le bruit de la construction. Allô Griffin Town! Donc pour nous aider à patienter, aujourd'hui, on boit un printemps fleuri ou, dans le bon jargon anglo, un spring blossom. Cette boisson élégante et facile à siroter est aussi fraîche et printanière qu'un bouquet de tulipes fraîchement cueilli. Hey, Baudelaire, toss with it, là! Dans un shaker avec de la glace, on va ajouter 1 once et demi de vodka, 3/4 once de jus de citron, 1/2 once de sirop de miel et on va shake, shake, shake et verser le contenu du shaker dans un verre avec de la glace et allonger avec de l'eau pétillante ou du soda. Vous pouvez y ajouter une branche de romarin frais puis terminer le tout avec une pincée de sel de lavande si vous avez du sel de lavande parce que on s'entend, c'est un petit ingrédient un petit peu plus fancy. Voilà, 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 vous avez votre printemps fleuri ou votre spring blossom. Je me sentais comme une... Encore une fois, comme une madame de pub.
Comme les pubs que t'entends à la radio. Pour ma note, je vais y aller avec un 7 sur 10. Ça ressemble pas mal à un vodka soda, mais fancy, si je peux dire ça comme ça. Oui, je peux dire ça comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien de très extraordinaire, tant qu'à ça, tu prends un vodka soda bien simple, mais je trouvais ça intéressant à essayer. Puis c'est vrai que c'est beau. Puis là, tu sais, la petite touche avec le romarin, tu sais, ça donne comme des arômes de plus. Mais ouais, 7 sur 10.
Bon, je vais y aller dans ma même ordre d'idée. Je vais donner un 7.2, mettons, juste pour être différente. Mais c'est comme un business pétillant. Vous vous souvenez-tu du business? Nous, on se souvient du business. Et s'il y a quelqu'un qui comprend cette citation, « This is the business, Adam Nan! » Slide dans les DMs, puis vous êtes automatiquement mon ami. Fait que non, maintenant qu'on est rafraîchi par notre cocktail printanier, de quoi tu me parles aujourd'hui?
Au Québec, la Loi sur la protection de la jeunesse, soit la LPJ, protège toutes les personnes de moins de 18 ans dont la situation met en danger sa sécurité ou son développement et ou a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, soit la DPJ. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a annoncé cette année avoir ouvert une enquête systémique de sa propre initiative sur l'impact des délais d'attente à l'évaluation et à l'application des mesures dans les dossiers d'enfants dont la situation est prise en charge par la DPJ dans l'ensemble du Québec. La CDPDJ soulève des problèmes récurrents et chroniques à la DPJ pour motiver sa décision. En France, plus de 300 000 mineurs sont pris en charge par la protection de l'enfance et la moitié de ces enfants sont placés dans des foyers, des familles d'accueil ou des villages d'enfants et adolescents. Les enfants sont confiés à la Fondation par l'aide sociale à l'enfance, qui est un service du conseil départemental. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Aux États-Unis, 49 % des enfants âgés de 0 à 9 ans subissent des châtiments corporels à la maison et pas un seul État américain ne interdit les châtiments corporels dans le cadre familial. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, soit la CDE, c'est le traité international relatif aux droits de l'homme le plus ratifié. Depuis son adoption en 1989, elle a été ratifiée par 196 pays, dont la Somalie et le Soudan du Sud en 2015. À ce jour, les États-Unis sont le seul pays au monde à ne pas l'avoir ratifiée. Encore aujourd'hui, le mariage d'enfants est légal dans 43 États américains. Avant 2018, année où le Delaware est devenu le premier État américain à interdire le mariage des enfants, il était légal dans les 50 États américains. Le 28 juillet 2022, le Massachusetts est devenu le 7e État à fixer l'âge minimum à 18 ans, sans exception, conformément aux normes internationales.
Fait que si je comprends bien, les personnes qui aiment les personnes du même genre qu'eux n'ont pas été capables de se marier entre eux durant de nombreuses années, tandis que des personnes qui étaient même pas en mesure de consentir convenablement au mariage, eux, pouvaient se marier.
T'as tout compris, parce qu'être gay, mon Dieu Seigneur, faut pas être gay, mais être pédophile, il aime ça aux États-Unis. Entre 2000 et 2018, il y a près de 300 000 mineurs qui ont été légalement mariés aux États-Unis. Si la plupart d'entre eux étaient âgés de 16 ou 17 ans, certains n'avaient cependant que 10 ans. La plupart des mariages d'enfants aux États-Unis concernent des jeunes filles épousant des hommes adultes. En fait, l'âge auquel beaucoup de ces mariages ont lieu ou la différence d'âge entre les conjoints font que ces mariages-là seraient typiquement considérés comme de la violence sexuelle. Les droits fondamentaux pour les enfants, pour en citer quelques-uns de base, sont le droit à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et à des installations sanitaires et le droit à l'identité. Pourquoi est-ce que ces droits-là ne sont pas respectés? Évidemment, il peut y avoir plusieurs facteurs de risque en cause, tels que la pauvreté. Les chiffres de 2021 indiquent qu'environ 10,5 millions d'enfants vivent dans la pauvreté aux États-Unis, c'est-à-dire un enfant sur sept. Il y a aussi la discrimination. Aux États-Unis, le racisme systémique et les violences policières impactent de façon disproportionnée le quotidien des personnes de couleur. Ces communautés font souvent face à un traitement inégal lorsqu'elles ont affaire au système public comme la santé, l'éducation, la justice criminelle et l'emploi. Mais qu'est-ce qui arrive quand les lois et les instituts qui sont en place pour protéger les enfants, image d'innocence, ne les protègent absolument pas? Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont Murderpedia, CDPJ, La Presse, ViePublique.fr, Humanium, Daily Mail, Oklahoman, News on Six, Vocal Media, Crime Crawlers, Find a Grave, Facebook, New York Post, Le Parisien, Univadi et le gouvernement du Canada. Avant de commencer, on tient à préciser que le cas d'aujourd'hui va parler de toxicomanie et de négligence infantile et nous tenons à préciser qu'en aucun cas nous portons un jugement sur les personnes souffrant de toxicomanie ou quelconque dépendance. Des liens vers des fondations ou organismes sont disponibles en tout temps en cliquant sur la barre d'infos dans nos bios sur nos réseaux sociaux. Maggie Mae Trammell est née le 25 octobre 2010 à Bartlesville, Oklahoma, une petite ville universitaire située à environ 50 km au nord de Tulsa et à environ 20 km au sud de la frontière du Kansas. Elle était la fille unique des parents Benjamin Trammell et Lindsay Fiddler. La jeune maman, Lindsay, avait deux autres fils qui étaient respectivement âgés de 3 et 4 ans. Malheureusement, les enfants sont venus au monde dans un environnement familial assez difficile. Lindsay, 26 ans, a de longs antécédents criminels avec arrestation pour voie de fait, vol, défaut de comparution devant le tribunal, possession de drogue, conduite sans permis et défaut de placer ses deux fils dans un siège de voiture approprié pendant la conduite. Et évidemment, les membres de la famille de Lindsay étaient inquiètes pour Lindsay et ses enfants en raison de sa consommation antérieure de drogue. Ils avaient même tenté de faire révoquer ses droits parentaux avant la naissance de la petite Maggie Mae. En avril 2010, Lindsay avait été arrêtée pour avoir consommé de la drogue alors qu'elle était enceinte de 4 mois et la drogue suspectée qu'elle consommait était du crystal meth. Le crystal meth, c'est le nom abrégé pour la méthamphétamine cristalline, qui est une drogue synthétique puissante et addictive. Elle agit en stimulant le système nerveux central, provoquant une augmentation de la vigilance, de l'euphorie et de l'énergie. Elle peut également causer des effets secondaires graves tels que la dépendance, la paranoïa, l'insomnie et des problèmes de santé mentale et physique à long terme. Un autre effet secondaire grave du crystal meth, c'est les comportements dangereux. Les personnes sous l'influence du crystal meth peuvent être plus susceptibles de participer à des comportements risqués tels que des relations sexuelles non protégées ou des activités criminelles. Le code aujourd'hui ne fait pas exception au danger de l'abus des substances, ce qui a commencé comme une dépendance malheureuse et rapidement devenu mortel. Le 4 novembre 2010, Lindsay décide d'utiliser sa drogue de prédilection pour rattraper certaines tâches et elle ne l'utilisait pas non plus avec désinvolture. En fait, elle était à sa troisième journée consécutive de consommation à ce point-là. On a découvert plus tard qu'en plus du crystal meth, Lindsay avait d'autres amphétamines ainsi que des opiacés et des benzodiazépines dans son organisme.
C'est quoi benzodiazépine?
Les benzodiazépines, en fait, sont une classe de médicaments utilisés principalement pour traiter les troubles liés à l'anxiété, tels que les attaques de panique, les troubles anxieux généralisés et l'insomnie. En fait, ils y agissent en modifiant l'activité chimique du cerveau, ce qui entraîne un effet calmant et relaxant.
Crème, merci. Quelle bonne réponse, tout détaillé!
Je suis là pour ça. Par contre, comme n'importe quel médicament, il y a quelques effets secondaires courants comme la somnolence et la fatigue. Il y a beaucoup de gens qui ressentent de la somnolence ou de la fatigue lorsqu'ils prennent des benzodiazépines, ce qui peut affecter leur capacité à rester alerte et concentrée. Il y a aussi la confusion mentale et troubles de mémoire. Les benzodiazépines peuvent provoquer des troubles de la mémoire à court terme, la confusion mentale et des difficultés de concentration. Il y a aussi l'ataxie. Il y a certains utilisateurs qui peuvent éprouver une coordination altérée, ce qui peut entraîner une démarche instable et des difficultés à effectuer des tâches nécessitant une coordination fine, ce qui peut être extrêmement dangereux pour les personnes âgées qui vont avoir encore plus de risques de chute. Il y a aussi les vertiges. Cette classe de médicaments peut causer des sensations de vertige ou d'étourdissement. Et je vais terminer avec dépendance et tolérance, mais sachez qu'il existe beaucoup plus d'effets secondaires. L'utilisation prolongée de benzodiazépines peut entraîner une dépendance physique et une tolérance, ce qui signifie que des doses plus élevées sont nécessaires pour obtenir le même effet. Donc, Lindsay a pris tout un cocktail et pas le genre qu'on vous recommande à Crime et Cocktail. C'est très important de noter que la jeune mère s'est retrouvée fatiguée, ce qui n'est pas un effet secondaire typique des uppers comme on les appelle, mais un effet secondaire de certains des autres médicaments qu'elle avait ingérés comme je viens juste de vous expliquer. La combinaison de benzodiazépines et de méthamphétamines peut créer un mélange de symptômes contradictoires avec des périodes de somnolence et de confusion alternant avec des périodes d'énergie et de stimulation. Cependant, ces effets-là peuvent être imprévisibles et peuvent varier d'une personne à l'autre. De retour à Lindsay, elle a ramassé tout son linge sale, a rempli sa machine à laver, qui est à chargement par le haut, et a ajouté du détergent, puis l'a allumé. En attendant que sa lessive soit faite, elle décide de s'allonger pour faire une sieste. Gardez simplement à l'esprit qu'elle a une petite fille naissante et deux enfants en bas âge et que le père des enfants n'était pas à la maison pendant cette période. Encore une fois, on tient à préciser, les mamans, faites-en des siestes. Quand vous le pouvez, faites-le. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la consommation de drogue dure alors que vous êtes en présence d'enfants et l'adulte en charge. C'est ça le problème. En tant qu'adulte responsable, c'est de notre devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant dont nous avons la charge. Tout ça nécessite une vigilance constante, une communication ouverte avec l'enfant et une volonté de répondre rapidement et efficacement à ses besoins, ce que personne ne peut faire s'ils ont consommé comme Lindsay a consommé ce jour-là. Pendant que cette dernière dormait, la tante de Lindsay, Rhonda Coshot, est passée voir sa nièce et le nouveau bébé qui n'a que 10 jours, on se le rappelle. Rhonda a trouvé Lindsay endormie sur le divan du salon, mais bébé Maggie Mae n'était nulle part en vue. Il y a une chose par contre qui était assez évidente. La machine à laver de Lindsay était terriblement déséquilibrée et émettait un bruit de tiraillement complètement horrible qui résonnait dans toute la maison une fois que la machine atteignait son cycle d'essorage. Tout ça, ça n'a pas réveillé Lindsay, loin de là. Est-ce qu'on est vraiment surpris avec tout ce qu'elle a consommé? Rhonda a donc décidé d'équilibrer la charge pour elle, mais elle a vite réalisé que ce n'était pas une charge de linge déséquilibrée ou des chaussures qui causaient tout le bruit. À l'intérieur de la machine à laver se trouvait le corps mutilé de Maggie Mae Trammell. Alors qu'elle était droguée, Lindsay a jeté son nouveau-né avec le linge sale et l'a lavé. Maggie Mae était dans la machine depuis près de 40 minutes. En panique, Rhonda a réveillé sa nièce de son sommeil alimenté par la drogue et lui a dit qui elle avait trouvé dans la machine. Horrifiée, Lindsay a frénétiquement composé le 911 où on peut l'entendre dans l'appel crier, je cite, « Mon bébé est mort ». On entend ensuite les deux femmes se disputer. Lindsay accuse Rhonda d'avoir tué Maggie Mae, ce à quoi Rhonda a répondu « Non, je n'ai pas tué ton bébé, c'est toi qui l'as fait ». Les ambulanciers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont désespérément tenté de réanimer Maggie Mae alors qu'ils la transportaient d'urgence à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, leurs tentatives ont été infructueuses. Maggie Mae, âgée de 10 jours, était morte. Qu'est-ce qui a mené à cette perte aussi tragique? Est-ce qu'elle aurait pu être évitée? Cette mort horrible a évidemment laissé en larmes de nombreux premiers intervenants. L'ambulancier John Hauser, qui a tenté de sauver la vie de la petite fille, a dit, et je cite, « Terrible. Je ne sais même pas comment le décrire. » Fin de la citation. Le chef de la police de Bartlesville, Tom Holland, qui au cours de sa carrière a été témoin de plusieurs homicides et fusillades entre gangs, a déclaré qu'il s'agissait de la scène de crime la plus tragique sur laquelle il avait jamais enquêté. Selon ses dires, un vétéran qui avait pris des photos de la scène de crime du corps de Maggie Mae à l'hôpital aussi a dû sortir parce qu'il était trop bouleversé. Le cas est vraiment venu toucher une corde sensible et M. Holland s'est engagé à ne rien négliger en ce qui concernait l'enquête. La famille et la communauté de Lindsay ont été eux aussi profondément touchés et choqués par les événements qui ont mené à la mort de Maggie Mae. Le petit ami de Lindsay et le père de la petite, Benjamin Trammell, s'est tenu à ses côtés avec assurance et a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de blesser volontairement leur nouveau-né. Il a dit, et je cite, « Au fond de mon cœur, je ne peux pas croire que Lindsay aurait blessé notre petite fille volontairement. Je n'y crois pas dans mon cœur pour être bien honnête avec vous. » Fin de la citation. La tante de Maggie Mae, Jessica Solis, a dit de la petite, et je cite, « Minuscule, très minuscule. Elle avait de longs pieds et de grandes mains. Je n'ai pu la voir que 4 fois. Je veux que les gens voient les effets des drogues. C'est la chose la plus importante, à mon avis. Tout ça aurait pu être évité. » Fin de la citation. Lindsay a été arrêtée et ses deux jeunes fils ont été placés sous la garde protectrice des travailleurs sociaux, puis ensuite ont été placés chez les proches. Lindsay, quant à elle, a été détenue dans la prison du comté de Washington avec une caution de 100 000 $ qu'elle n'a évidemment pas pu payer. Initialement, elle faisait face à des accusations d'homicide au premier degré, mais les procureurs ont réduit ces accusations en raison du fait que les échantillons limités de sang de Lindsay rendaient difficile la preuve exacte de la quantité de drogue contenue dans son organisme. On veut pas dénigrer le travail des policiers, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris plus de sang de Lindsay? Pourquoi est-ce que l'enquête a été bâclée à ce niveau-là? On sait pas. Ils n'avaient pas non plus l'impression qu'elle avait l'intention de faire du mal à son nouveau-né. Le médecin légiste a conclu que la tragique mort de Maggie Mae était un homicide et que la cause de son décès était la noyade. Le rapport d'autopsie a également indiqué que le bébé présentait de nombreuses écorchures et contusions comparables à celles qui seraient endurées lors d'un cycle de lavage. Le médecin légiste a prélevé des échantillons de sang de Maguimé pour vérifier la présence de substances illicites. Cependant, les rapports toxicologiques n'ont révélé aucun alcool ou drogue dans son organisme. Lindsay a dit, et je cite, « J'ai admis avoir fait preuve de négligence et d'imprudence en ce qui concerne la supervision de Maguimé en utilisant et en abusant de méthamphétamine et de médicaments sur ordonnance. » Je sais que tout le monde me critiquait et que je mérite d'être critiquée pour avoir pris de la drogue alors que je prenais soin de mes enfants, mais je sais que je n'aurais jamais fait de mal à mes enfants, je ne l'ai jamais fait. Tout le monde a passé tellement de temps à me rabaisser, j'ai l'impression que c'est eux contre moi. Fin de la citation. Par la suite, elle a affirmé qu'elle se réveillait chaque jour avec le même mauvais rêve depuis le 4 novembre 2010. Elle a déclaré, je cite une fois de plus, « Ça craint d'être moi, tout le monde dit que je suis un monstre. » Je veux juste que la vérité éclate, mais je sais que ça ne sera jamais le cas. Je suis coupable de négligence envers les enfants et j'ai perdu ma fille. Je sais que je ne suis pas la victime dans cette affaire, mais j'aurais aimé mourir et pas elle. Il n'y a personne qui puisse me faire autant de mal que le mal que je ressens maintenant. » Fin de la citation. Elle a poursuivi en expliquant qu'en novembre 2010, elle avait nourri, baigné et habillé son bébé. Elle avait nourri, lavé et habillé son bébé et l'avait ensuite couché. Elle s'est évanouie sur le divan et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a dit que sa tante avait trouvé Maguimé morte dans la machine à laver. D'ailleurs, Lindsay a dit que sa tante était sous les effets de la morphine, établissant ainsi un déni plausible. Elle a affirmé, comme j'ai dit, qu'elle était coupable de négligence envers ses enfants en raison de sa consommation de drogue, mais elle ne croit pas avoir mis son bébé dans la machine à laver. Donc oui. Sa tante Rhonda prenait effectivement de la morphine, mais tout ça était légalement prescrit. La police a d'ailleurs enquêté sur ce fait et après en avoir discuté longuement, plus en détail, avec le procureur, elle n'a jamais été inculpée en lien avec la mort de Maguimé. Cependant, il y a une information intéressante concernant son récit des événements. La majorité des sources d'informations ont affirmé que Rhonda était venue voir Lindsay et ses enfants et qu'elle était la première à tomber sur cette scène horrible. Par contre, dans un article publié par TulsaWorld.com le 3 mars 2011, Rhonda affirme avoir nourri Maguimé et changé sa couche avant que Lindsay ne l'amène dans une autre pièce avec l'intention de remettre le bébé au lit. Rhonda affirme qu'elle a dit à la police qu'elle avait trouvé le bébé dans la machine à laver qui faisait du bruit comme si c'était déséquilibré. Mais si tel était le cas, Rhonda aurait dû rester dans la maison plus longtemps que les 40 minutes nécessaires à la machine à laver pour atteindre le cycle d'essorage. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé où se trouvait Maguimé? De plus, elle affirme avoir parlé aux autorités du 3 jours de drogue consécutive que Lindsay aurait eu et qu'elle avait ingéré. Si tout ça est vrai, Rhonda ne devrait-elle pas être au moins coupable de ne pas avoir appelé le CPS? Le CPS, c'est le court terme pour Child Protective Services, fait que c'est comme la DPJ qu'on a ici au Québec. Donc, c'est juste un établissement qui est là pour protéger les enfants. Après une enquête de 9 mois, le procureur du comté de Washington, Kevin Buchanan, a publié la déclaration suivante lors du procès de Lindsay. Ouvre la citation. Cette affaire impliquait des circonstances factuelles et juridiques uniques qui ont entraîné la mort tragique de Maggie Mae Trammell, la petite fille de 10 jours de l'accusé. Ces circonstances inhabituelles ont créé des problèmes de preuve difficiles, notamment des échantillons limités de sang de Mme Fiddler pour prouver la quantité de drogue dans son organisme. Après un examen approfondi et une discussion des événements qui ont conduit au décès de Maggie Mae Trammell, la preuve n'indique pas que l'accusé a intentionnellement tué son enfant. La décision consciente de Mme Fiddler d'ingérer de l'amphétamine avec d'autres médicaments sur ordonnance a directement conduit à la mort de Maggie Mae. L'intoxication de l'accusée l'a rendue incapable de s'occuper de son enfant et a exposé son nourrisson aux conséquences de la consommation de drogue illégale. Le bureau du procureur du comté de Washington a fait cette affaire une priorité et a consacré de nombreuses heures et ressources à l'aboutissement des poursuites. Il a été considéré que la peine recommandée garantirait que les enfants mineurs survivants de l'accusé atteindront l'âge de la majorité avant la libération de Mme Fiddler et qu'ils ne seront donc pas placés sous sa garde. Après sa sortie de prison, la détenue sera étroitement surveillée pendant 15 ans supplémentaires. En cas de violation future de la loi ou des règles de probation, la détenue sera soumise au reste de sa peine en prison. Le bureau des avocats du district du comté de Washington est parfaitement conscient de l'indignation ressentie par notre communauté à la suite du décès de Maggie Mae Trammell. compte tenu des défis auxquels mon bureau est confronté pour mener cette affaire à un verdict positif et souhaitable, je crois qu'un résultat approprié et juste a été atteint pour les enfants survivants de Mme Fidler et toutes les autres personnes personnellement impliquées et affectées par cette affaire. » Fin de la citation. Le 9 août 2011, Lindsay a renoncé à son droit à un procès devant jury et a plaidé coupable d'homicide involontaire et de négligence envers les enfants. Elle a été condamnée à 30 ans de prison, dont 15 ans pour négligence envers un enfant et 4 pour homicide involontaire, purgée simultanément. Les 15 années supplémentaires comprennent la surveillance après la libération. Elle a également dû payer une amende de 1 500 $. Elle doit suivre des thérapies obligatoires en matière de toxicomanie et s'inscrire comme délinquante violente. Étant donné que le crime de négligence envers des enfants est classé comme un crime violent, l'État de Oklahoma exige que Lindsay purge 85 % de son incarcération avant de devenir éligible à la libération conditionnelle, bien qu'il ne soit pas garanti qu'elle obtienne cette dite libération. À l'issue de sa condamnation, le juge du district Curtis Delap a dit à la mère, et je cite, « Bonne chance, Madame Fidler ». Fin de la citation. Au Canada, en 2023, les ambulanciers paramédicaux du BCEHS ont répondu à un total de 42 172 cas de surdose ou empoisonnement de patients pour l'année, soit une moyenne de 116 appels par jour. Le nombre total de réponses aux surdoses empoisonnement représente une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Les appels mensuels moyens sont supérieurs à 3 500 par mois. Le BCEHS a connu 11 mois avec plus de 3000 appels pour surdose empoisonnement en 2023 et le 21 juin 2023, un nouveau record quotidien a été établi. Ils ont reçu 221 appels pour surdose empoisonnement pour la journée, pour un seul quartier, puis c'était un jour de versement d'aide aux revenus. C'est important de souligner qu'en date de 2023, les overdoses sont la principale cause de décès chez les jeunes en Colombie-Britannique. Aux États-Unis, plus d'un million de personnes sont mortes depuis 1999 d'une overdose de drogue. En 2021, 106 699 décès par surdose de drogue sont survenus aux États-Unis. Le taux de décès par surdose, ajusté selon l'âge, a augmenté de 14 % entre 2020 et 2021. En 2020, c'était 28,3 pour 100 000 et en 2021, c'était 32,4 pour 100 000. Le CDC a rapporté que 107 941 Américains sont morts d'une surdose de drogue cette année-là, soit environ 1 % de plus que les décès par surdose en 2020. Le nombre d'overdoses mortelles a augmenté presque chaque année au cours des deux dernières décennies, continuant de battre des records annuels. Le taux de décès par surdose a diminué chez les femmes pour la première fois en 5 ans, mais il a continué de grimper chez les hommes. Les hommes représentent environ 70 % des décès de surdose aux États-Unis parce que les recherches ont démontré qu'ils sont probablement plus sensibles aux facteurs biologiques et sociaux qui contribuent aux surdoses de drogue. Pour les opioïdes spécifiquement, de 1999 à 2021, près de 645 000 personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes, qu'ils soient sur ordonnance ou illicites. En France, les chiffres les plus exhaustifs sur les overdoses mortelles sont ceux du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, donc la CPDC, rattachée à l'INSERM. Ils s'appuient sur les certificats de décès pour analyser les origines de la mort, qu'elles soient liées à une surdose de médicaments ou de stupéfiants. Or, les dernières données remontent à 2016. Le CPDC a annoncé que, prochainement, les statistiques qui seront publiées seront ceux de 2017. En 2016, 1748 personnes étaient décédées d'une intoxication accidentelle, origine beaucoup trop vague pour être pertinente en matière d'abus de drogue. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le nombre de décès liés aux drogues a augmenté de 17,5 % entre 2009 et 2019 au niveau international. Il existe une forte disparité d'un pays à l'autre, avec, par exemple, en 2019, une mortalité qui est ajustée sur l'âge de 216 personnes par million d'habitants parmi tous ceux des États-Unis, contre seulement 14,8 personnes par million d'habitants dans l'Union européenne, soit 5,14 décès par overdose de drogue illicite. Malheureusement, les données nationales sur le sujet sont rares. Les auteurs de ce travail ont utilisé le registre français DRAM, décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances, qui vise à identifier les substances psychoactives impliquées, soit médicaments ou drogues illicites. Pour terminer, je vais vous citer quelques actions que vous pouvez entreprendre, que ce soit juste parce que vous voulez aider les gens autour de vous ou que vous connaissez quelqu'un de proche qui a un problème de consommation. Premièrement, vous pouvez faire vos recherches pour savoir quels sont les signes et les symptômes de la consommation de substances. Vous pouvez aussi observer attentivement le comportement de la personne sur une période de plusieurs jours ou semaines pour comprendre ce qui vous amène à penser qu'il y a un problème. Cette information-là va vous être utile si vous décidez de parler de la situation avec d'autres membres de votre entourage, de demander conseil à un professionnel ou parler directement avec la personne. Cependant, ne pensez pas au besoin d'une image exhaustive du problème au préalable. Vous pouvez aussi partager vos observations avec d'autres membres de votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, pour déterminer comment eux, ils perçoivent la situation. S'ils conviennent qu'il y a un problème, c'est à ce moment-là que vous pouvez déterminer qui va parler à la personne pour obtenir de l'aide. Vous pouvez aussi contacter un professionnel de la toxicomanie, un professionnel de la santé mentale, un médecin, un professionnel de l'aide aux employés, un conseiller d'orientation, bref, n'importe qui pourrait vous aider dans un contexte professionnel. Vous pouvez décrire les habitudes de consommation de substances d'un membre de votre entourage pour voir si le professionnel considérait ça comme un problème. Vous pouvez fournir des détails tels que le type d'alcool ou de drogue, la quantité que la personne consomme, la fréquence de sa consommation, la durée de cette tendance, les conséquences négatives et la réaction de la personne aux discussions ou aux confrontations concernant la consommation de substances. Finalement, assurez-vous que vous et les autres membres de votre entourage sont à l'abri de tout préjudice physique ou émotionnel potentiel. S'il existe une menace ou une possibilité de violence physique, vous devez élaborer un plan de sécurité. Surtout, rappelez-vous que la dépendance n'est pas un choix. L'American Medical Association, soit AMA, a classé l'alcoolisme parmi les maladies en 1956 et a inclus la dépendance parmi les maladies en 1987. En 2011, The American Society of Addiction Medicine, soit ASAM, a rejoint l'AMA en définissant la dépendance comme un trouble cérébral chronique et non comme un problème de comportement ou simplement le résultat de mauvais choix. C'est ainsi que va se terminer notre triste épisode d'aujourd'hui et on tient aussi à vous rappeler que dans nos bios, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez trouver tous les liens vers les organismes ou fondations pour vous aider si vous avez quelconque problème de toxicomanie, d'abus de substances quelconques, que ce soit avec la drogue, l'alcool, le jeu. Les liens sont toujours disponibles et nous aussi, on peut répondre au meilleur de nos capacités. On le rappelle, on n'est pas des professionnels, mais on peut essayer de vous aider en vous redirigeant vers des personnes qui le sont et qui peuvent vous aider.
Un énorme merci à Noémie pour cet épisode, ma foi, fort en émotion, fort en information, fort en conseils aussi pour les gens qui en ont besoin. Je veux rebondir aussi sur les statistiques dont tu viens de faire mention qui stipulent à quel point ça a été extrapolé dans les dernières années, ce fléau, cette crise des opioïdes. Et juste à Montréal, en fait, si on ouvre les yeux, on peut voir la déchéance qui est en train de s'installer peu à peu, notamment dans le village gay. Sincèrement, ça fait pitié à voir le nombre de personnes en détresse. Je l'ai dit, je l'ai déjà mentionné, mais je travaille dans les médias et je travaille justement dans le village. Et ça m'arrive sur une base quotidienne de voir littéralement des gens pliés en deux, de voir des gens en détresse, de voir des gens complètement torchés, il n'y a pas d'autre mot de le dire. Et la plupart des gens font juste regarder ces personnes-là avec dégoût, mais c'est juste un des signes que notre société va mal, les plus criants en fait. On n'a juste pas besoin de regarder plus loin qu'à Montréal pour voir à quel point la crise du fentanyl, la crise des opioïdes, ça nous fait mal à nous aussi, puis on dirait qu'on oublie des fois que ce sont des humains qui consomment, qu'ils ont une famille, qui ont des peut-être des enfants, qui ont des amis, qui ont des gens qui les aiment, et s'ils n'ont pas ça, mais ils méritent parce que ce sont des humains. Si vous êtes en mesure de le faire, faites juste essayer le plus possible d'aider, de donner aux organismes, de vous informer. Et si vous êtes dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de gens qui consomment, sachez que c'est assez facile de se procurer de la naloxone et que c'est facile aussi de trouver des tutoriels sur comment l'administrer aux gens. Vous savez même pas comment, juste en étant informé, vous êtes capable d'aider. Puis je pense que c'est ça. Je pense que j'ai rien d'autre à dire que c'est un phénomène qui est vraiment désolant puis qui est en train de juste s'extrapoler partout dans le monde, là, que ce soit aux États-Unis ou ici. Puis on peut toutes faire une petite différence.
Je pourrais pas mieux dire, puis je veux juste terminer en ressoulignant ce que je viens de dire dans ma conclusion, c'est que la toxicomanie ou l'abus de substance, c'est considéré comme une maladie. Donc, est-ce que vous jugez les gens parce qu'ils sont malades généralement? Non. Donc, jugez pas ces gens-là. Si vous voulez faire quelque chose, c'est ce qui serait le mieux, comme Jess a dit. Sinon, ben au moins juste de passer un peu le message, d'en parler, de créer un environnement sécuritaire pour que les gens autour de vous, que ce soit vos enfants, votre famille, vos amis, puissent se sentir bien pour partager les problèmes qui se passent dans leur vie pour justement être capable d'attaquer la source du problème le plus rapidement possible. Bref.
D'autres petites notes aussi, juste vous aviser de ne jamais vous mettre en danger pour porter assistance à qui que ce soit. Là, on a dit d'aider les gens si c'est possible, mais n'oubliez jamais votre sécurité en premier lieu. Je veux juste que ce soit dit d'emblée. On n'encourage jamais personne à se mettre dans une situation dans laquelle sa sécurité est en danger. Par contre, si vous êtes en mesure d'aider, que ce soit par un petit coup de téléphone au service d'urgence, s'il vous plaît, faites-le.
J'aurais pas mieux dit, Jess. Puis, parlant de bien dire les choses et de bien écrire tes scripts, de quoi tu me parles la semaine prochaine?
Hey, la semaine prochaine, on va y aller vraiment léger. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit épisode qui sort un petit peu des sentiers battus du true crime, mais j'ai comme une petite fascination morbide pour tout ce qui est accident. Donc, accident d'avion, gros carambolage, accident de montagne russe. On se voit la semaine prochaine pour un top 5 des pires accidents survenus dans des parcs d'attractions.
Ah! Crémé cocktail!
Cheers, guys!
Chin, chin!